21h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. C'est presque devenu une tradition. Chaque semaine, on voit apparaître sur les réseaux sociaux un nouveau cas d'illusion d'optique qui pousse des millions de personnes à travers le monde à débattre, discuter, donner son avis et inventer de nouvelles illusions. De la célèbre robe qui est perçue blanche et dorée par les uns et noire et bleue par les autres, aux plus récentes jambes brillantes qui s'avèrent en réalité être simplement tachetées de peinture, tous ces cas d'illusion amusent les êtres humains d'où qu'ils viennent. Tout cela n'est pas nouveau, évidemment. L'homme aime voir à quel point ses sens le trompent. On se souvient tous de nos premières rencontres avec des illusions d'optique, comme le canard lapin ou des escaliers qui montent continuellement. Les artistes aussi s'emparent des erreurs de nos sens pour mieux nous tromper. Peintres, magiciens ou illusionnistes, cinéastes, musiciens. Oui, parce qu'il faut le rappeler, les illusions ne sont pas uniquement visuelles. Les autres sens, comme Louis, peuvent en effet aussi être mis à l'épreuve des illusions. Les sens semblent nous tromper, donc. Nous avons pourtant appris, de jour en jour, à les maîtriser. Nous avons appris à regarder, à écouter, à analyser, comparer, et plus largement à focaliser notre attention sur ce qui nous entoure. Et pourtant, nous ne pouvons pas toujours faire confiance à nos sens. Pourquoi les sens nous trompent-ils? Doit-on d'ailleurs imputer la cause des illusions aux sens ou à notre capacité d'interprétation des informations que ceux-ci nous délivrent? Comment une perception devient-elle consciente et que deviennent les perceptions inconscientes? Quel est le rôle de l'attention dans tout cela? Si elle semble nous permettre d'améliorer nos perceptions conscientes et leur assimilation, comment peut-elle être si facilement détournée par des illusionnistes chevronnés ou des spécialistes du marketing sauvage? Et pourquoi la conscience de l'illusion ou du détournement de l'attention ne nous permet-elle pas toujours d'éviter la manipulation? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous essaierons de répondre avec Émile Talabart, docteur en philosophie. Vos travaux sur l'attention et son lien avec la perception se situent dans les champs de la philosophie de la perception, de la connaissance et des sciences cognitives. Vous êtes actuellement en post-doctorat dans l'équipe Sciences, Normes et Décisions à Paris-Sorbonne. Émile Talabart, bonsoir.
Et vous,
déshabillez-vous.
On démarre cet entretien avec un petit détour dans l'histoire de vos domaines de recherche. Vous ancrez vos recherches, comme je le disais tout à l'heure, dans la philosophie de la perception, de la connaissance et des sciences cognitives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces champs, sur ces disciplines et ce qu'elles recoupent?
Alors, je vais surtout me concentrer sur la philosophie de la perception et la philosophie des sciences cognitives. Donc, la philosophie de la perception, c'est tout simplement comprendre comment nous acquérons par nos sens une connaissance à propos du monde qui nous entoure. Donc, c'est une question qui est aussi ancienne que la philosophie. Et on peut même dire qu'une partie du questionnement philosophique vient du fait que parfois nos sens nous trompent et parfois ne nous trompent pas. Donc, évidemment, se poser la question de ce que nous percevons, c'est aussi nous poser la question des moments où nos sens tombent en panne, des moments où nous nous trompons, où nous sommes victimes d'illusions. Voilà. Alors, à côté de cette partie un peu classique de mon interrogation, qu'on peut retracer à Platon, Descartes et à tous les auteurs classiques de la philosophie, il y a une composante de philosophie des sciences cognitives qui est simplement une étude critique, un accompagnement des sciences cognitives en cours de développement et plus particulièrement des sciences cognitives à partir du moment où elles sont retournées vers la question de la conscience. Les sciences cognitives, depuis la fin des années 80, le début des années 90, se sont enfin intéressées à cet objet un peu mystérieux qui est la conscience, le fait que lorsque nous ouvrons les yeux, ça nous procure un certain effet. D'accord ? Il y a eu un phénomène qui est présent à nous, une façon particulière dont le monde se donne à nous, qui semble habituellement indescriptible par les sciences et sur lesquelles pourtant un certain nombre de chercheurs se penchent en s'interrogeant sur les bases neurales de ce phénomène, de la perception, de la connaissance que nous acquérons du monde.
Alors pourquoi dans les années 90? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Peut-être que les sciences cognitives telles que nous les connaissons aujourd'hui naissent réellement dans les années 1950 sous forme de théorie du traitement de l'information. Et pendant longtemps, les chercheurs se sont déjà intéressés à la conscience en particulier par l'étude de l'attention. Et à ce moment-là, dans les années 80-90, un certain nombre de chercheurs hardis, un petit peu ambitieux, se sont dit qu'ils avaient identifié les bases neurales de l'expérience consciente. Et donc, à partir de ces bases neurales, ont suggéré qu'ils avaient une explication de ce phénomène d'être conscient du monde qui nous entoure. Donc c'est à partir de ce moment-là que la question de la conscience ressurgit particulièrement dans le champ des sciences cognitives et a donc intéressé à l'extérieur de ce champ les philosophes qui, eux, s'interrogeaient sur le phénomène de la conscience depuis la naissance de la philosophie.
Alors, quels sont justement les classiques, entre guillemets, les immanquables quand on travaille sur ces disciplines-là, sur ces sujets-là ?
Alors, il y aurait les classiques, l'ensemble de l'histoire de la philosophie, oui, évidemment, mais on peut restreindre un petit peu le champ, éventuellement, aux philosophes qui se sont intéressés, de près ou de loin, avant ou après la naissance officielle de la discipline, à la psychologie. Donc, on peut penser à Descartes, notamment dans la dioptrique, qui s'intéresse au fonctionnement du système visuel et à la façon dont nous acquérons une connaissance à propos du monde à partir de ces représentations qui s'imposent à nous. On peut penser éventuellement à Kant, évidemment, mais plus près de nous, on peut penser surtout à William James, qui est l'un des auteurs pont entre la psychologie naissante, puisque c'est lui qui écrit un manuel de psychologie à la fin du 19e siècle, et la philosophie. William James est philosophe de formation et a développé lui-même une philosophie empiriste et pragmatiste, qu'il concilie avec les développements de la psychologie, qu'il relie évidemment à l'histoire de la philosophie dans son manuel.
Voilà. Alors vous travaillez plus particulièrement sur la question de l'attention, sur cette notion et ce concept de l'attention. Alors est-ce qu'il y a justement dans cette question de l'attention des auteurs qui sont un peu phares ?
Alors,
qui auraient nourri votre thèse ?
Alors, William James, c'est le premier auteur, pour le coup. C'est l'un des premiers à donner une description systématique à la fois de la description phénoménologique, c'est-à-dire de l'effet que procure l'expérience attentive, et aussi à essayer de donner une théorie physiologique de ce qu'est l'attention. Donc c'est, lorsqu'on s'intéresse maintenant de manière contemporaine à l'attention, en relation avec les développements des sciences cognitives, sans doute l'un des premiers auteurs à consulter. Voilà. Ensuite, il y a toute une tradition d'études sur l'attention qu'on va retrouver à la fois du côté de la philosophie continentale, c'est-à-dire la philosophie telle que c'est pratique sur le territoire français, allemand, depuis le début du XXe siècle. On pense notamment, par exemple, à Husserl, qui développe une grande théorie de l'attention. Mais on trouve aussi, dans la philosophie analytique, un certain nombre de développements plus ramassés, mais tout aussi intéressants, sur la notion d'attention, et notamment sur sa relation avec la conscience explicite des sujets lorsqu'ils sont face à des éléments de leur environnement. Donc, par exemple, chez des auteurs comme Dretzky, d'accord, donc un auteur américain célèbre pour son livre sur la vision. D'accord, donc, son livre qui s'appelle Voir et savoir.
D'accord. Bon,
et de manière plus contemporaine, chez Ned Block, d'accord, donc, qui est l'un des philosophes phares de ce début du XXIe siècle en philosophie des sciences cognitives. Donc ces auteurs, en s'intéressant à certains phénomènes comme la cécité inattentionnelle, comme un ensemble de déficits induits par des manipulations de l'attention, s'interrogent sur les relations entre attention, perception, attention, connaissance, d'accord, et plus généralement sur la relation entre l'attention et la conscience.
Alors forcément, ces disciplines, philosophie de la perception, de la connaissance, des sciences cognitives, se nourrissent d'autres disciplines qu'on pourrait mettre dans la catégorie des sciences dures, j'imagine. Alors comment se fait le lien entre les uns et les autres et qu'apportent finalement les neurosciences, parce que j'imagine qu'il s'agit aussi de ça, les neurosciences, à ce champ de réflexion philosophique ?
Alors, pour répondre tout de suite à la fin de la question, les neurosciences nous forcent, nous philosophes, à donner des critères objectifs des thèses que nous défendons. Et en particulier, lorsque nous parlons de conscience, les philosophes sont mis au défi par les neurosciences, ils sont mis au défi d'opérationnaliser, c'est-à-dire de rendre empiriquement traitables les questions qu'ils se posent, notamment à propos de la conscience. Une question majeure, c'est quels sont les critères de la possession de la conscience chez des individus ? Est-ce que le seul marqueur que nous avons, c'est les rapports introspectifs, les descriptions que donnent les individus de leurs expériences conscientes, ou est-ce qu'il existe des marqueurs implicites, par exemple simplement l'état neural d'un individu à un moment donné ou certaines de ses réactions réflexes qui ne semblent pas modulées par une forme de connaissance ou de perception explicite de la part du sujet. Donc la question qui se pose pour un philosophe qui s'intéresse à la conscience, c'est à la fois de dégager une théorie et de dégager une méthode, d'accord, qui permette d'opérationnaliser dans le cadre de sciences expérimentales les concepts qu'il propose.
Donc on a forcément de l'expérimentation en philosophie aussi.
Alors, le philosophe est toujours très réticent à l'expérimentation. Le philosophe, selon l'image consacrée, reste dans son fauteuil, au coin du feu, le soir, à fumer sa pipe. Mais, idéalement, les bonnes théories actuelles de la conscience donnent des critères permettant de mesurer la présence ou l'absence de conscience et éventuellement même de mesurer le type d'expérience dont le sujet jouit. C'est-à-dire, est-ce que nous percevons le monde en détail ? Est-ce que nous percevons le monde comme une espèce de masse un peu informe avec des zones détaillées et des zones beaucoup plus floues, beaucoup plus génériques ? D'accord ? L'un des défis, c'est d'arriver à donner des critères pour décider entre ces différentes hypothèses. Et donc, ce sont des critères qui, évidemment, proviennent d'une réflexion conceptuelle, mais qui doivent ensuite être mobilisés dans des expériences précises de mesure des phénomènes conscients.
La philosophie se doit de devenir appliquée.
Évidemment, heureusement d'ailleurs.
Alors vous nous avez ramené à un texte. Alors est-ce que vous pouvez juste simplement nous dire quel est ce texte et est-ce qu'on va entendre dans quelques instants ?
Alors je suis venu simplement avec un texte un petit peu séminal, c'est-à-dire un morceau du chapitre de William James consacré à l'attention dans les principes de la psychologie. Voilà, c'est un texte qui décrit simplement ce qu'est l'attention avant d'en proposer une théorie.
Bien, parfait. On vous écoute.
Il est étrange de remarquer que l'attention sélective a peu intéressé les psychologues de l'école empiriste anglaise. Les Allemands s'y sont explicitement intéressés en tant que faculté ou résultat, mais le mot apparaît peu dans les écrits de Locke, Hume, Hartley, Lemmy et Spencer, ou seulement par inadvertance. La raison d'une telle mise à l'écart du phénomène de l'attention est assez évidente. Ces écrivains tentent à montrer comment les hautes facultés de l'esprit sont des purs produits de l'expérience, et l'expérience est censée être simplement donnée. L'attention, impliquant un degré de spontanéité réactive, est différente de la pure réceptivité qui constitue l'expérience, et donc on ne doit pas la mentionner. Mais dès que l'on y réfléchit, on s'aperçoit que des millions d'items du monde de l'ordre extérieur se présentent à mes sens sans jamais vraiment faire partie de mon expérience. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour moi. Mon expérience, c'est ce à quoi j'accorde mon attention. Seuls ces items que je remarque forment mon esprit. Sans intérêt sélectif, l'expérience est un pur chaos. L'intérêt seul donne l'accent et l'emphase, la lumière et l'ombre, l'arrière et le premier plan, la perspective intelligible. Cela varie selon chaque créature. Mais sans lui, la conscience de chaque créature ne serait qu'un magma gris, chaotique, indéterminé, impossible à concevoir. Monsieur Spencer, auteur empiriste, considère la créature comme de la chaux absolument passive sur laquelle l'expérience coule en pluie. La chaux serait impressionnée plus profondément, là où les gouttes sont plus épaisses, et ainsi donc, l'esprit est finalement moulé. Avec le temps, toutes les choses sensibles devraient finalement assumer une constitution mentale identique, car l'expérience, qui seule façonne, est un fait constant, et l'ordre de ces items doit être exactement reflété par le miroir passif que nous appelons l'organisme sensible, doué de sensations. Si cela était vrai, une race de chiens élevés depuis des générations, disons au Vatican, à qui l'on présente des personnages sculptés dans du marbre, dans des formes et des combinaisons variées, devrait pouvoir discriminer les nuances les plus remarquables de ces personnages particuliers. Ils devraient devenir des connaisseurs en matière de sculpture. Quiconque peut juger d'une telle probabilité, les chiens resteraient sûrement, en dépit d'une exposition longue, dotés d'aussi peu de sens artistique qu'au départ, par manque d'intérêt. Pendant ce temps, les odeurs à la base des piédestaux se seraient organisées dans la conscience des animaux en un système de correspondance, et ce, car les chiens s'y intéresseraient. Ces auteurs ont donc pas totalement passé sous silence l'intérêt du sujet qui met en lumière des items particuliers de l'expérience et les accentue de façon à ce que des associations moins fréquentes façonnent notre esprit aux dépens des plus habituels. L'intérêt lui-même, bien qu'il soit sans aucun doute parfaitement naturel, fait l'expérience plus qu'elle ne le fait. Chacun sait ce qu'est l'attention. C'est la prise de possession par l'esprit, en une forme claire et vive, d'un item, parmi plusieurs objets ou pensées possibles. La focalisation, la concentration de la conscience, implique de laisser de côté certaines choses de façon à se concentrer sur d'autres efficacement. Et cela s'oppose à cet état confus, dispersé, que les Français nomment distraction, et les Allemands, Zerstreutheit.
Bien, merci beaucoup. Alors pourquoi avoir choisi donc ce texte-là en particulier ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a, vous, lancé un peu dans vos recherches ? C'est un texte qui a été important dans votre thèse et votre travail sur l'attention ?
Oui, alors c'est un texte qui est intéressant simplement parce qu'il montre que l'attention est un phénomène souvent négligé dans les théories de la perception, notamment dans toutes les théories qui pensent que la perception est simplement donnée au sujet. En réalité, l'attention, lorsque l'on étudie un petit peu ce phénomène, est un principe d'organisation de l'expérience et aussi le principe par lequel une certaine expérience va être mobilisée pour donner lieu à une connaissance, une intention d'action ou simplement à un jugement. Donc, ce qui est aussi intéressant avec ce texte, c'est l'appel de James au sens commun. Chacun sait ce qu'est l'attention. Mais le fait de savoir chacun comment mobiliser l'attention, ce que ça veut dire que d'être attentif dans son attitude, parce que nous ressentons le fait de prêter attention de telle ou telle manière, ne nous dit pas encore ce qu'est le phénomène. Donc, ce texte est un programme de recherche qui demande à la fois une investigation phénoménologique de l'attention, c'est-à-dire d'écrire le phénomène de l'attention tel qu'il est ressenti par un sujet, et une investigation fonctionnelle de l'attention, c'est-à-dire dire à quoi l'attention sert, quel est son rôle dans l'expérience perceptive et dans l'acquisition des connaissances.
Merci beaucoup, on va continuer cette discussion sur l'attention et on va essayer de comprendre un peu plus l'objet de vos recherches après une petite pause musicale.
I'm not afraid to
Bon Iver avec God sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et je suis toujours en compagnie d'Émile Talabar, docteur en philosophie, avec qui nous sommes en train de discuter de cette notion de l'attention. On va commencer la deuxième partie de cet entretien avec quelques illusions sonores que j'ai pu trouver au détour d'une recherche sur Internet. Internet recèle de choses absolument fantastiques, n'est-ce pas ? Alors, comme effectivement il est un peu compliqué de montrer des illusions d'optique à la radio, j'ai préféré choisir celle qui trompe votre ouïe. On écoute ça tout de suite.
Je vous ai déjà appris à ne pas vous fier à ce que vous voyez. Aujourd'hui, vous allez apprendre à ne plus faire confiance à vos oreilles. C'est un peu comme ce que je vous avais proposé avec les hallucinations auditives. Sauf que là, rien à voir avec des traductions de chansons, je vais vous faire écouter des sons qui devraient complètement tromper votre cerveau. Alors mettez un casque, c'est important pour cette vidéo, parce que voici le top 10 des illusions sonores. Numéro 9, la mélodie des silences. Une mélodie, qu'est-ce que c'est ? Normalement, c'est une succession de sons qui forment un air musical, mais ici, c'est l'inverse. Dans cette illusion, 7 notes vont être jouées en même temps, puis vont être coupées rapidement à tour de rôle. Voilà comment on pourrait illustrer la partition que vous allez entendre, écoutez bien.
Écoute, listen to me, Watanabe.
Si vous avez cru percevoir une mélodie, c'est normal.
Si, mi, ré, fa, si bémol.
Et pourtant, il n'y en avait pas. Ne vous inquiétez pas, ça s'explique. Quand toutes les notes sont jouées en même temps, votre cerveau n'est pas focalisé sur l'une d'elles en particulier. Mais quand une note se coupe puis est rejouée rapidement, il y a une stimulation de vos récepteurs auditifs relatifs à cette note. On croit l'entendre un peu plus fort, ce qui fait qu'elle ressort par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on peut tromper le cerveau qui croit entendre la mélodie des silences.
Alors c'était une illusion parmi d'autres, une illusion sonore parmi d'autres, mais j'ai trouvé intéressante parce que justement, il y a cette question de la focalisation et donc cette idée que nos sens nous trompent et qu'on va focaliser notre attention sur quelque chose qui n'est pas la bonne. Et effectivement, on a l'impression donc qu'il y a quelque chose d'ensemble et d'entendre une mélodie à l'intérieur de ce son d'ensemble, alors qu'en fait, en réalité, il n'y a qu'un son ensemble et collectif, et que ce sont les silences qui vont provoquer l'illusion de cette mélodie. Alors, j'ai dit en introduction de cette émission qu'on a souvent l'impression que nos sens nous trompent, et le pire, c'est qu'on aime ça. Alors, pourquoi on aime tant ça, que les sens nous trompent ? Pourquoi cette vidéo, par exemple, fait 1 451 000 vues sur YouTube ? Émile Talabar.
Alors ça, c'est une question difficile. Pourquoi est-ce qu'on aime être trompé par nos sens ? Ça, je ne sais pas. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, nous surestimons notre capacité à percevoir. Et donc, nous retrouver dans une situation où nous sommes pris en défaut, où nous voyons que la façon dont nous percevons ordinairement les choses n'est pas tout à fait le cas, nous intrigue. D'accord ? C'est un phénomène qui a été mis en évidence dans les expériences assez classiques de cécité au changement. D'accord ? Donc, dans ces expériences-là, un élément très saillant, parce que notre attention est divertie, va être négligé. D'accord ? Par exemple, le passage assez classique d'un gorille ou d'une femme avec une ombrelle au milieu d'un groupe de joueurs jouant à la balle. D'accord ? Nous sommes certains de pouvoir voir ces éléments saillants, et pourtant, lorsque nous sommes confrontés à l'expérience, qui est souvent une simple vidéo projetée à des sujets d'expérience, nous sommes incapables de repérer le gorille ou la femme à l'ombrelle. Donc ces expériences particulières, ces petites séquences vidéo, ces phénomènes auxquels nous sommes confrontés, nous intriguent simplement parce qu'ils mettent en jeu ou ils prennent en défaut notre confiance dans nos sens. Donc peut-être que c'est ce jeu, savoir si nous serions capables de distinguer un objet. D'accord ? Dans des conditions particulièrement difficiles, c'est peut-être ce jeu-là qui nous stimule à aimer ces illusions perceptives.
En tout cas, on est très vite habitué à être confronté à des illusions optiques. Hein. Dès le plus jeune âge, on a quand même cette idée on peut être trompé par nos sens. On essaie d'apprendre aussi à ne plus l'être. Mmh. On apprend, par exemple, avec le jeu des 7 erreurs, à essayer de comparer deux images, à essayer de trouver donc, des différences, des erreurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tout un apprentissage qui se fait, qui est long et qui est important ? Pourquoi, au bout du compte, nos sens arrivent toujours à nous tromper ? Est-ce qu'on ne devrait pas être prévenu quelque part ?
Si, on doit être prévenu, mais on peut être prévenu qu'il y a beaucoup de choses inattendues qui nous entourent, on peut être prévenu de la complexité de notre environnement, sans pour autant que notre système visuel ou même notre système cognitif soit capable d'appréhender toutes les différences remarquables. C'est un problème assez classique en philosophie, qui avait déjà été émis en avant par Leibniz, par exemple dans son texte sur les petites perceptions. D'accord ? Beaucoup d'éléments frappent nos sens sans que nous nous en apercevions. D'accord ? Lorsque j'entends le bruit de la mer, le mugissement des vagues, je n'entends pas chacune des vagues. J'entends un son complexe formé de la multitude des vagues sans que je puisse individuer l'une ou l'autre des vagues dans ce bruit général. Et en réalité, la perception de notre monde environnant est de ce type. Nous ne prêtons pas habituellement attention à ces petites erreurs de perception que nous faisons. Lorsque, par exemple, je descends le boulevard Saint-Michel sur mon vélo, je ne prête pas attention aux passants qui sont sur le trottoir, je ne prête pas forcément attention aux panneaux publicitaires, je ne fais attention à rien d'autre que la route devant moi. En réalité, ma perception se réduit à ce qui est pertinent à moi. D'accord ? Peut-être que cette réduction de mon champ perceptif va m'amener à avoir un accident, d'accord ? Renverser un piéton. Ce piéton que je n'avais pas remarqué, que je renverse, bah, c'est simplement un de ces stimuli qui échappe habituellement à mon attention parce que mes capacités cognitives sont limitées. D'accord ? Donc, on peut éventuellement s'entraîner à percevoir un maximum de choses, à détecter des différences, détecter des erreurs, mais on ne peut pas détecter au-delà des limites de notre système cognitif. Donc, fatalement, une bonne partie de notre perception, une bonne partie de notre expérience quotidienne est illusoire. Ou, si on ne veut pas dire que notre perception est illusoire, on va simplement dire que notre perception est fragmentaire, toujours limitée à quelques éléments qui sont pertinents pour nous. D'accord ? Et en dehors de ces éléments-là, nous sommes quasiment aveugles. Ou en tout cas, nous ne prenons pas garde aux autres choses qui nous entourent.
Mais alors justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une perception qui serait inconsciente ? C'est-à-dire qu'en fait, on voit, on perçoit ces choses qui nous entourent sans y prêter attention, en tout cas sans les assimiler ou les enregistrer consciemment.
Si, alors c'est justement ce que dit Leibniz dans son texte sur les petites perceptions. Nous sommes stimulés par les sens, mais sans aperception. D'accord ? Nous ne nous rendons pas compte, nous ne prêtons pas l'attention nécessaire à toutes ces stimulations, à toutes ces sensations que nous avons pour nous rendre compte qu'elles renvoient à des objets. D'accord ? Mais plus généralement, dans le champ qui m'intéresse, la question, c'est celle du rôle de l'attention dans la perception. C'est-à-dire, est-ce que l'attention rend consciente certaines perceptions ? Est-ce que je ne suis conscient que de ce à quoi je prête attention ? Ou est-ce qu'en réalité, l'attention sélectionne dans un flux d'informations déjà conscient les informations sur lesquelles je vais porter des jugements. C'est assez différent de dire que l'attention rend conscient certains objets et de dire que l'attention rend disponible une information déjà consciente. Donc, cette question-là, savoir si notre perception est constituée d'éléments tous conscients mais dont nous ne nous rendons pas compte ou d'éléments qui ne deviennent conscients que si nous nous rendons compte de leur existence est une des questions structurantes des débats actuels sur les bases neurales de la conscience, le rôle de l'attention dans la perception consciente, d'accord, et la relation qui existe entre perception consciente et connaissance.
Alors comment on travaille justement sur cette question d'attention ? Est-ce que vous-même, vous avez proposé un certain nombre d'expérimentations ? Est-ce que vous procédez à des expériences avec des volontaires sur cette question d'attention ?
Alors, personnellement, mon premier volontaire, c'est moi.
Ce qui est déjà pas mal.
Parfois, lorsque je réfléchis à certaines des hypothèses que je peux émettre, d'accord, je m'assois dans mon fauteuil et je réfléchis à l'expérience que je suis en train d'avoir. Alors malheureusement, le fait de prêter attention à son expérience modifie son expérience et donc ne permet pas d'avoir une bonne description de ce qu'on est vraiment en train de percevoir. Donc, je ne pratique pas moi-même des expériences sur des volontaires, mais j'essaye, lorsque j'émets une hypothèse, toujours me demander est-ce que cette hypothèse est testable. D'accord ? Et un certain nombre d'hypothèses sur le rôle de l'attention dans la perception consciente ont pu être testées. Je pense notamment, par exemple, à une expérience célèbre qui est à présent grandement discutée dans la littérature, qui est l'expérience de Sperling.
Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'est cette expérience ?
Bien sûr. Donc, c'est une expérience qui remonte au début de la psychologie cognitive, aux années 1960. C'est une expérience très simple. On projette, pour un temps très bref, pour 60 millisecondes, c'est donc un flash simplement, une grille remplie de lettres devant un sujet. Et donc, on demande au sujet de rapporter le maximum de lettres de cette grille. Donc, la grille est composée de 12 lettres et le sujet n'est habituellement capable de rapporter que 4 à 5 de ces 12 lettres. Cependant, si, en projetant cette grille, on dit simplement au sujet de ne rapporter qu'une ligne qui sera indiquée après un signal sonore, d'accord, donc une des lignes de la grille contenant chacune 4 lettres. Le sujet, en réponse au signal sonore, est capable de rapporter l'ensemble des lettres de cette ligne. D'accord. Ce qui suggère qu'en réalité, il a perçu bien plus d'items qu'il n'était capable de rapporter, puisque, au hasard, il est capable de rapporter n'importe laquelle des lignes. Donc, dans un cas comme ça, les résultats plaident en faveur d'une perception beaucoup plus riche que celle que nous sommes capables de rapporter spontanément.
C'est-à-dire que donc, l'attention serait seconde, c'est-à-dire qu'elle arriverait après la perception.
C'est ça. C'est-à-dire que l'attention sélectionnerait parmi un flux d'informations conscientes, d'accord, les informations pertinentes pour une tâche. D'accord. Mais finalement, l'attention ne serait pas nécessaire à l'obtention de l'expérience consciente elle-même. Nous ne sommes pas conscients simplement des 4 lettres que nous avons apportées, mais en réalité de l'ensemble de la grille que nous n'avons simplement pas réussi à capturer par l'attention.
Mais alors, cette expérience fait débat, c'est ce que vous disiez ?
Absolument.
Et pourquoi ?
À partir de cette expérience, on peut se demander si toutes les lettres étaient réellement conscientes. D'accord ? Est-ce que l'attention a sélectionné parmi des lettres conscientes celles qui seraient rapportées, ou est-ce qu'en réalité, l'attention a déclenché la venue à la conscience de certaines des lettres de la grille ? D'accord ? Donc, c'est ces deux interprétations-là qui sont actuellement en jeu dans les débats sur les relations entre l'attention et la conscience. Donc, les tenants d'une conception très riche de la conscience vont dire que nous étions conscients de toutes les lettres. Toutes les lettres étaient phénoménalement présentes, d'une façon que nous n'arrivons pas à capturer, d'accord, mais elles étaient là. Et d'ailleurs, les sujets disent souvent qu'ils ont vu toute la grille. À l'opposé, les tenants des conceptions attentionnelles de la conscience vont dire que non, c'est une illusion de penser que notre expérience est aussi riche que les rapports spontanés des sujets le disent. Il faut en fait bien voir que l'attention est limitée à quelques items à la fois, les items sur lesquels l'attention s'est posée, que l'attention a permis de rapporter.
Et comment vous, vous vous positionnez dans ce débat ?
Alors moi, je me positionne plutôt du second côté. Je suis plutôt un tenant d'une théorie attentionnelle, d'accord ? Mais ma position a un petit peu évolué ces derniers temps. D'une part parce que y a cette impression d'avoir vu toute la grille qui est assez... qui est assez convaincante, d'accord ? Et d'autre part, parce que je pense qu'il est possible de rendre compte de cette impression tout en conservant un rôle essentiel à l'attention dans une théorie de l'expérience consciente. Là, ça serait extrêmement long à développer. Il est possible de concilier l'idée que l'attention est nécessaire à la conscience, à la perception consciente, tout en admettant que les sujets ont vu plus d'items qui ne sont capables d'en rapporter.
Alors, est-ce qu'il est possible pour un sujet, pour n'importe quel sujet, de développer son attention, d'essayer de faire des exercices pour améliorer son attention ?
Alors oui, on se rend compte d'ailleurs dans ce type d'expérience que des sujets entraînés sont capables de rapporter plus de lettres que des sujets non entraînés. Et de fait, une bonne partie de notre apprentissage visuel, c'est apprendre à discriminer les éléments pertinents de notre environnement, pour ensuite s'y mouvoir avec plus d'aisance. Donc, il est évidemment possible de développer notre attention, de développer notre sensibilité à certains stimuli plutôt qu'à d'autres, et c'est justement ce en quoi consiste l'expertise dans certains domaines. C'est-à-dire une attention tellement développée qu'elle saisit immédiatement les stimuli pertinents sans même avoir à être mobilisée consciemment. Donc l'expertise, c'est un développement de l'attention poussé à l'extrême qui rend l'acte d'attention quasiment sans effort.
Et ça, c'est dans n'importe quel domaine ou discipline ?
Dans de nombreux domaines, je pense. Un philosophe expert voit tout de suite les termes importants ou les thèses importantes d'un texte sans avoir à le relire 4 ou 5 fois de suite. On peut penser aussi que un plombier expert voit tout de suite la cause de la fuite sans avoir forcément à longer l'ensemble des tuyaux avec un chiffon humide pour justement localiser le point de rupture.
Où le musicien est capable, effectivement,
voilà,
de reconnaître...
Le musicien est capable aussi de reconnaître un accord, est capable de discriminer les notes. Et c'était justement l'un des grands débats de la psychologie introspectionniste naissante, savoir s'il était capable, en focalisant son attention sur un accord, de percevoir chacune des notes, ou si un accord ne se donnait que sous forme d'un ensemble de notes, comme unitaire.
D'accord, et donc, quelles sont les réponses à cette question ?
On ne sait pas. Alors, à cette question précise, il n'y a pas de réponse. C'est d'ailleurs un des grands problèmes de l'introspection, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des descriptions univoques ou universelles. D'accord. Mais c'était l'un des grands débats, savoir s'il était capable de... Bon, il était possible de discriminer, à l'intérieur de ce qui semble être une unité, les éléments constitutifs.
Et alors, est-ce qu'il y a des évolutions qu'on pourrait déjà, qui sont déjà entamées sur ces réflexions, sur la tension? Est-ce qu'il y a des champs en fait, qui sont en train de s'ouvrir ou des réflexions qui sont en train de s'ouvrir, qui ne sont pas encore abouties, mais qui proposeraient d'autres pistes de compréhension de cette notion de l'attention et des perceptions conscientes et inconscientes?
Alors, sur les relations entre attention et conscience, là, le débat est assez bien posé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, avec l'évolution des technologies, avec la modification de notre environnement, simplement les interfaces via des écrans, les interfaces aussi via nos téléphones portables, notre attention évolue. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement de plus en plus stimulé, de plus en plus même harcelé, j'ai envie de dire, par un ensemble de signaux. Et donc, voir comment l'attention, la capacité à prêter attention, évolue à l'échelle d'une société, c'est une question assez intéressante actuellement, qui est notamment étudiée, par exemple, chez les phénoménologues à travers la notion de vigilance, notamment. Donc on peut penser à certains travaux, notamment ceux de Nathalie Debras qui s'intéresse à ça, sur la façon dont notre capacité à prêter attention est finalement modifiée par les nouvelles interfaces qui existent entre nous et l'environnement.
Donc c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, effectivement, on voit de plus en plus apparaître des problèmes de déficit d'attention, oui. En tout cas de complications pour les uns ou pour les autres de fixer son attention sur tel ou tel objet, ou en tout cas d'attention qui diminue aussi.
Ça, c'est en fait simplement l'attention et... Donc, l'attention, il faut voir que c'est la capacité de l'esprit à se diriger alternativement vers de nouveaux stimuli. Et donc l'attention, si elle est stimulée, si elle est confrontée à une nouveauté, va spontanément se détourner d'un objet. Donc en multipliant les signaux, en multipliant effectivement les nouveautés, des choses qui peuvent divertir notre attention, nous perdons cette capacité à nous focaliser. Et ce n'est pas que nous perdons notre capacité à nous focaliser, c'est que simplement l'attention, par définition, ne se focalise pas très longtemps sur une même chose en l'absence de distracteur. Alors, dès qu'un distracteur intervient, l'attention est mobilisée sur cette nouveauté, sur ce qui constitue peut-être un signal pertinent d'un point de vue écologique. D'accord ? La sonnerie de mon téléphone portable est conçue de telle façon à ce qu'elle divertisse mon attention lorsque je suis en train d'étudier, par exemple, un livre de philosophie.
Donc il vaut mieux tout couper.
Absolument. Pour faire de la philosophie comme pour simplement étudier un sujet à fond, il faut tout couper et éviter d'interaction sociale.
C'est sympathique. Oui. Bah justement, on va faire une petite pause musicale, on reviendra sur ces questions juste après.
Thank you.
c'était Cléa Vincent avec Sous le vent sur Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
Vous êtes toujours dans Déshabillez-moi sur Radio Campus Paris. Je suis toujours en compagnie d'Émile Talabar. Nous travaillons, en ce moment, on ne travaille pas forcément. Aussi, on travaille. Allez, on est en tout cas attentif à cette notion de l'attention que nous sommes en train de traiter. Donc, depuis le début de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Et donc, on va écouter, lancer la troisième partie de cet entretien, un petit son. Parce que, juste pour le plaisir, parce que c'est les nuls, parce qu'on les aime bien. Alors, c'est Histoire de la télévision. Alors, peut-être que vous vous souvenez de cette série de programmes. Et cette fois-ci, sur les image subliminale.
Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa l'image subliminale.
La télé avait toujours été pour nous un moment de détente, de repos, de paix intérieure et même extérieure. Mais c'était avant que la télé n'invente l'image subliminale, procédé qui consiste à glisser dans un film des images invisibles à l'œil nu mais que notre cerveau perçoit.
C'est ça ?
C'est ça.
Glisser dans un film des images de boissons fraîches et vous donnerez soif à tout le monde, c'est ça ?
C'est ça, mais dis donc, qu'est-ce que t'es bavarde quand tu penses, toi ?
T'as qu'à pas écouter.
Dans la série Chez Neuve en Péril, ce soir, l'abbaye de Nonclair. Laissée à l'abandon depuis plus d'un siècle, l'abbaye de Nonclair a un tout autre visage.
C'est quand même un scandale de laisser s'abîmer le patrimoine comme ça. Moi, des fois, je suis pour la peine de mort. Hein.
Non, je prends du coca.
Avec les sardines à l'huile ? Il est fou, lui.
Sans le savoir, nous venions de pénétrer dans le monde étrange de la subliminatation.
Non, là, je suis pas sûr.
Sublimination, ça va, ça ?
Fais à l'écran.
Mais avec la récession, le personnel de maison
fut réduit à une seule personne, une vieille bonne qui ne servait plus à rien. Dans le voisinage, tout le monde riait. On disait, tiens, c'est l'abbaye de Nonclair qui n'a plus qu'une seule bonne. Le duc ne put supporter ses quolibets.
Mais non, ce qu'il faut avec les sardines à l'huile, c'est du vin blanc.
Une façade au visage triste, morne, déprimant, sali, banal, saccagé.
Et de la danette au chocolat.
Bon, je parle de la danette au chocolat.
Avec les sardines à l'huile et avec les martiens qui mangent ça. Non, ce qu'il faut avec les sardines, c'est coudre.
Ces images subliminales compliquèrent considérablement nos repas.
Bon. Je peux aller chercher ma petite plongée et mes palmes ?
Bien sûr, mon chéri.
Pilou, pas un petit ramène-moi aussi le dernier établi de chez Black & Decker. Et aussi une pendule !
Dis donc, faut leur faire nos comptes, hein. Ça doit commencer à coûter cher, tout ça.
Pense que c'est du famille.
Triste visage.
Triste façade, triste demeure.
Bon, alors c'était un peu pour rigoler, hein, parce qu'évidemment, c'est pas très sérieux tout ça, les nuls, mais en même temps, cette apparition des images subliminales dans la télévision et dans le marketing est quand même importante et intéressante. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une récupération, en fait, de justement tout ce que le cerveau ne peut pas percevoir consciemment, mais inconsciemment, et qui peut être utilisé dans le grand capital et dans la vente et le marketing et la publicité. Émile Talabar.
Oui, alors, il ne faut pas surestimer non plus la force des images subliminales, c'est-à-dire que il y a toujours cette légende, on aurait diffusé subliminalement des bouteilles, enfin, l'image d'une bouteille de coca, et les gens se seraient empressés d'aller acheter du coca par, simplement parce qu'on avait entraîné chez eux un sentiment de soif. Mais en réalité, les signaux subliminaux n'ont pas forcément d'impact sur notre perception, n'ont pas non plus d'impact sur nos croyances. Il faut vraiment distinguer entre deux types d'états, les états inconscients et les états conscients. C'est-à-dire qu'un état subliminal, habituellement, c'est un état qui est préconscient, qui n'a pas forcément la même force qu'un état conscient sur l'ensemble de nos croyances, sur le type d'attitude que nous pouvons avoir. Un état conscient, en revanche, est plus endurant lorsqu'on regarde à un niveau neural comment il se comporte, et il va avoir un impact sur nos croyances, sur nos attitudes. Donc, il y a une grande légende autour des images subliminales qui est effectivement que les images subliminales nous manipuleraient. Et on a cette peur d'être manipulé, peut-être en période d'élection, peut-être aussi dans une période où nous sommes poussés à la consommation par ce type d'artifice. Mais leur impact est beaucoup plus faible, même si, évidemment, il n'est pas complètement nulle. C'est-à-dire que si effectivement quelque chose est traité par le cerveau jusqu'à un stade préconscient, il y a un traitement perceptif qui a lieu. D'accord ? Ça ne donne pas pour autant lieu à un ensemble de croyances ou d'attitudes, à un conditionnement qui nous serait imposé de l'extérieur par le grand capital ou les Illuminati, par exemple.
Les Illuminati qu'on retrouve souvent dans cette question des images subliminales.
Évidemment.
Avec Disney, etc. etc. Alors justement, à quel point on peut manipuler? Comment on ferait pour manipuler si on voulait le faire? Donc vous parlez de perception consciente. Est-ce qu'il y aurait des trucs et astuces ou du bon manipulateur sur la conscience perceptive humaine?
Alors, bonne question. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je n'ai aucune idée de comment il faudrait faire pour manipuler réellement nos attitudes en utilisant la perception. Je pense que la meilleure façon de s'y prendre, c'est encore la façon de Pavlov par le renforcement, c'est-à-dire nous apprendre systématiquement à, aboyer ou à saliver à un moment donné. Bon. Mais à part par le renforcement, je ne vois pas trop comment la perception peut nous conditionner.
Alors, il y a des génies de l'attention, du détournement d'attention surtout. Ouais. Alors je parle par exemple des illusionnistes dont c'est le métier de détourner l'attention. Alors comment justement on peut faire ce travail-là de détournement d'attention et quels sont, alors du coup, est-ce que vous êtes allé interroger vous des personnes qui travaillent justement dans ce milieu-là de la magie, de l'illusion et est-ce qu'on peut apprendre quelque chose d'eux?
Alors, ça, c'est une des envies que j'avais quand j'ai commencé à travailler sur l'attention, mais que je n'ai jamais réalisé, c'était effectivement de voir quelles étaient les techniques effectivement utilisées par les prestidigitateurs, les illusionnistes. Alors, il faut distinguer en fait deux types de... quand on parle de prestidigitation, d'illusionnisme, il faut distinguer deux types d'erreurs que nous pouvons faire à propos de ce que nous voyons. Il y a une erreur qui vient simplement du traitement par nos organes sensoriels des signaux visuels, c'est-à-dire que parfois, certains signaux visuels trompe systématiquement, quel que soit le degré d'attention que nous y prêtions, nos sens. On peut penser à certaines illusions assez célèbres, donc l'illusion par exemple de Müller-Lyer, dans laquelle deux lignes de même longueur sont accolées, mais l'une est encadrée par des flèches rentrant à l'intérieur et l'autre par des flèches sortant de la ligne. Et donc ces deux lignes ont la même longueur, mais l'une des deux apparaîtra systématiquement plus grande que l'autre. Et quel que soit le degré d'attention que nous prêtions à ces lignes, nous ne pourrons pas défaire cette illusion. Il existe un autre type d'illusion qui est simplement dû à la vitesse ou à la succession trop rapide de certains stimuli qui, elle, peut être apprivoisée soit par une certaine connaissance préalable du phénomène qui dissipe partiellement l'effet d'illusion, soit éventuellement en recourant à un ralenti sur YouTube. Voilà. Donc, effectivement, l'un des ressorts de la prestidigitation, c'est d'arriver à distraire l'attention ou justement empêcher la focalisation et surtout empêcher qu'on voit le truc. C'est-à-dire que souvent, connaître le truc modifie la perception que nous avons. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la pénétration cognitive, c'est-à-dire les attentes que nous avons, les connaissances d'arrière-plan que nous avons, permettent de façonner également la perception, éventuellement de distinguer dans un imperceptif encombré ou difficilement lisible ou ambigu, ce qui est pertinent à un moment donné. Donc, par exemple, voir qu'une carte sort de la manche du prestidigitateur. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'une carte va en sortir, il n'y a pas d'autre explication possible, et donc nous sommes attentifs à ce phénomène-là plutôt qu'à sa main droite qui, à ce moment-là, est en train de faire un signe en l'air et de nous distraire de ce qui se passe dans sa main gauche.
C'est exactement la même chose pour les illusions d'optique, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on sait et qu'on voit l'illusion, on ne cesse plus de tromper.
Alors, il faut se demander ce que ça veut dire de se faire tromper par une illusion d'optique. Dans un certain nombre de cas, nous ne sommes pas trompés. C'est-à-dire que lorsque nous voyons, par exemple, un bâton plongé dans l'eau qui apparaît cassé, nous ne sommes pas vraiment trompés, nous ne pensons pas que le bâton est cassé. Nous savons simplement que c'est la façon dont le bâton trempé dans l'eau apparaît. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'illusion. Mais dans certaines autres illusions, donc on peut penser par exemple effectivement aux escaliers d'Escher qui sont particulièrement fascinants. D'accord ? Nous allons comprendre petit à petit que nous avons affaire à un dessin en deux dimensions qui ne représente pas réellement un escalier tridimensionnel infini, clos sur lui-même. D'accord ? Mais là encore, il est très difficile de s'abstraire de l'impression procurée par les sens. Et dans ce cas-là, c'est plutôt notre connaissance qui permet de dissiper l'illusion plutôt que nos sens eux-mêmes qui sont happés, quasiment emprisonné dans cette figure, comme dans le cas d'illusion de Müller-Lyer. Donc il y a vraiment deux types d'illusions perceptives. Il y a des illusions perceptives qui découlent de notre incapacité à discriminer une scène, et il y a d'autres illusions qui viennent simplement de pannes dans notre système visuel ou simplement du fait que nous allons buter sur certains stimuli, être incapables de les casser, de les comprendre d'une façon qui soit en accord avec notre théorie du monde environnant.
Très bien. Bien, merci beaucoup, Émile Talabar, d'avoir répondu à toutes ces questions. Des questions, on en a encore un tout petit peu, j'en ai encore quelques-unes à vous poser. Mais cette fois-ci, on va prêter attention un peu plus à ce qui se cache derrière le philosophe, avec l'entretien psy.
Déshabillez-moi.
Ouais, ça fait toujours un peu peur, mais en fait, c'est pas du tout un moment difficile à passer en réalité. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre première rencontre avec le monde des illusions? La première fois que vous avez été confronté, par exemple, à une illusion d'optique ou un spectacle de magie, est-ce que quelque chose vous a marqué, ou peut-être pas la première fois, mais la première fois en tout cas que vous vous en souvenez?
Alors, j'imagine que l'objectif, c'est d'arriver à comprendre comment j'ai pu m'intéresser à la perception et à
peut-être
toutes ces choses-là. Alors, il y a une raison, en fait, toute simple. Avant même de parler d'illusion ou de magie, c'est que je porte des lunettes depuis tout petit.
Ouais.
Et que mettre des lunettes, ça change réellement le monde dans lequel j'existe. Simplement, je vois autre chose, avec ou sans lunettes. Et donc, simplement réfléchir sur ce fait-là m'a poussé à m'interroger sur la perception. Maintenant, je me suis beaucoup amusé lorsque j'ai commencé la philosophie avec les illusions elles-mêmes, puisque j'avais commencé à travailler sur la différence entre perception et illusion, et je suis fasciné par le fait que certaines illusions résistent à tous les efforts que je peux faire pour les dissiper. Donc l'illusion de Müller-Lyer, pour moi, est un exemple typique d'illusion de ce type. Alors, qu'est-ce qui fait que je vois ces deux lignes comme étant de la même longueur, de longueur différente, alors que, évidemment, elles ont la même longueur? Qu'est-ce qui fait aussi que je suis incapable de voir à la fois le canard et le lapin dans le canard-lapin? Je dois choisir l'un des deux.
Mmh.
Et c'est terrible. J'aimerais bien pouvoir voir la figure comme un canard-lapin, mais je n'arrive pas à voir de manière englobante les deux figures à la fois. Donc, c'est cette question-là. J'aime la magie simplement parce que je trouve ça fascinant, mais sans forcément que ça ait aiguillé ma curiosité. C'est vraiment ces faits bruts, ces espèces de petites figures qui nous interrogent un petit peu. Le fait que, par exemple, lorsqu'on dispose effectivement deux dessins en croissant qui représentent chacun le même homme et ces deux dessins ont la même taille, faire passer l'un à droite de l'autre le fait paraître plus grand que le premier. Qu'est-ce qui fait que c'est ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette illusion-là?
Alors, pourquoi avoir choisi la philosophie pour essayer d'aller répondre à ces questions-là? Pourquoi pas avoir choisi autre chose, justement, travailler plutôt en sciences, en neurosciences ou ce genre de discipline?
Alors, c'est le hasard, en partie. C'est le fait d'avoir trouvé, lorsque je me suis intéressé à la philosophie, des gens qui travaillaient sur ces domaines-là.
Mmh.
D'accord. Donc c'est le hasard d'une rencontre, c'est le hasard de cours que j'ai pu suivre et puis de lectures qui m'ont ensuite stimulé. D'accord. C'est le fait que j'ai découvert les neurosciences assez tard finalement, lorsque j'étais déjà bien engagé en philosophie.
D'accord.
D'accord. Et que mon parcours ne me prédisposait pas forcément à des études scientifiques.
C'est aussi une bonne raison. Alors, comment vous expliquez ce que vous faites à vos amis? Est-ce qu'ils arrivent à saisir de vos amis non initiés à la philosophie et notamment à celle-ci en particulier, à la philosophie de la perception et des sciences cognitives? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots? Alors c'est quoi? C'est ce truc à la thèse en 180 secondes. Alors là, on va peut-être pas prendre 180 secondes, mais comment vous leur dites ce que vous êtes en train de faire et sur quoi vous travaillez? Quel est l'objet de votre recherche?
Alors c'est vrai qu'habituellement mes amis sont moins patients que le temps d'émission d'aujourd'hui. Donc très rapidement, je leur dis souvent que je travaille sur la perception, que je m'intéresse à qu'est-ce qui rend une perception consciente plutôt que non consciente. Et mon exemple favori, c'est l'exemple que je prends souvent en soirée, c'est de regarder la bouteille de bière la plus proche et dire voilà, qu'est-ce qui fait que cette bouteille de bière te procure une impression? Qu'est-ce qui fait qu'elle t'apparaît comme étant de ce verre-là, de cette forme-là? D'accord. Voilà ce sur quoi je travaille à partir de la notion d'attention. Donc c'est extrêmement intuitif et en général, je module mon propos en fonction de l'intérêt réel et du degré d'ébriété de mon interlocuteur.
En même temps, l'ébriété, c'est intéressant parce que justement, ça perturbe la perception.
Oui, mais ça lance souvent dans des conversations philosophiques interminables qui sont aussi inextricables.
Et alors, dernière question, en dehors de la philosophie, vous pratiquez aussi la photographie. Ouais. Est-ce un hasard? Et comment l'une et l'autre de ces pratiques s'influencent réciproquement?
Alors, effectivement, ce n'est pas du tout un hasard si je pratique la photographie à côté de la philosophie, puisque j'ai commencé à pratiquer de la photographie après avoir commencé ma thèse sur l'attention. Et en particulier, je me suis intéressé à la photographie, puisque une photo n'est jamais unie, intégralement détaillée, mais définie par des zones de flou, par un premier plan, par un arrière-plan, exactement comme la perception. Ou en tout cas, comme notre image de la perception semble exactement comme nous concevons naïvement la perception. Donc, je me suis intéressé à ça, surtout parce que je me pose la question de ce que la façon dont une zone floue peut représenter quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire représenter quelque chose de manière floue? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'un dessin d'enfant et une photographie fidèle représentent la même maison, par exemple? Donc c'est ça qui m'a intéressé au début. Et accessoirement, la photographie me permet, dans les moments de panne d'inspiration philosophique, de m'occuper et de faire quelque chose de productif qui me donne l'impression, de loin, d'encore faire de la philosophie.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Émile Talabart, d'avoir répondu à toutes nos questions et ces dernières questions qui sont un peu plus personnelles aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce que vous avez des choses en préparation, des colloques, des publications, des choses qui arrivent dans votre vie de philosophe ou peut-être dans votre vie de photographe, une exposition ou quelque chose?
Alors, ma vie de photographe, non, puisque c'est une partie très privée. Pour le coup, je montre parfois mes photos, mais pas toutes.
D'accord.
Mais d'un point de vue philosophique, oui, j'ai plusieurs articles qui sont actuellement soumis en cours de publication. Donc un article notamment sur la cécité au changement, encore chez un auteur comme Dretzky. Donc savoir si nous sommes effectivement aveugles à certains éléments de notre environnement lorsque nous n'y prêtons pas attention, c'est ce qui intéresse cet article. Et quelques communications dans les temps qui viennent. Voilà. Mais... oui, on va garder ça discret pour l'instant.
Très bien. Bien, merci beaucoup. Déshabillez-moi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. On vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus Paris.